Notre Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, comme nous venons de le chanter, le Créateur. Et il est, n'est-ce pas qu'il est en droit de nous demander ce qu'il veut, d'exiger de nous toute notre obéissance, que nous lui offrions tout, en fait. Même pas seulement qu'une partie de nos biens en offrande, mais il est en droit d'exiger de nous tout, et même sans rien nous donner en retour. Il serait parfaitement juste de le faire, puisqu'il est le Dieu créateur. Nous ne sommes que sa créature. Mais pourtant, dans son amour, comme plusieurs frères l'ont mentionné, il nous fait grâce et il nous comble de bénédictions. Il nous demande notre obéissance, c'est vrai, mais il veut nous récompenser. Il veut même récompenser ses serviteurs, leur faire du bien. Et il promet de belles choses à ses enfants et il l'accomplit. Et le peuple d'Israël est sur le point d'expérimenter la bonté de Dieu à nouveau. Ils viennent de recevoir la loi, les 10 commandements, plusieurs ordonnances, toute une liste de choses à faire et à ne pas faire, et même des ordonnances à l'avance qui prévoient des punitions même. Et Dieu est clair, vous serez saints comme moi. Je suis un Dieu saint, et puisque vous êtes mon peuple, vous devez être saints. L'exigence de Dieu, c'est la sainteté. Mais il ne fait pas qu'exiger cela de son peuple. Il promet aussi de les bénir. Il promet plusieurs bonnes choses. Et je vous invite à tourner avec moi dans Exode 23. Donc, Exode, le deuxième livre dans la Bible, après Genèse, chapitre 23. Si vous n'êtes pas habitué, lorsque vous tournez les pages, c'est les gros chiffres, les gros nombres, ça représente le chapitre. Et les petits nombres en dessous, les petits chiffres, ce sont les versets. Nous allons commencer au verset 20. Donc, chapitre 23, verset 20, jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Exode 23, verset 20, c'est Dieu qui parle ici. Il dit, « Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. » Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, il te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras, les idoles, et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras. Je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens, les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Et j'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce passage que tu as adressé au peuple d'Israël. Et merci parce que tu l'as préservé jusqu'à nous aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, et il est toujours aussi vrai et aussi édifiant. Permets que par ton esprit qui est en nous, que nous puissions comprendre l'enseignement que tu as réservé pour nous, pour chacun de nous et pour ton Église. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Donc, nous voyons que Dieu place devant les hommes à qui il exige obéissance, il place devant eux une récompense, un salaire. Même si ce n'est pas parce qu'ils le méritent, mais il leur donne, il veut leur faire du bien. Il leur promet de belles choses. Il n'exige pas de ses serviteurs de le servir pour rien. Même si nous, de notre point de vue, nous devons être prêts à servir Dieu sans rien attendre en retour. Comme Jésus nous exhorte à nous voir comme des serviteurs inutiles même, qui ne faisons que ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, de son côté, lui, nous promet des récompenses, des bénédictions. Ici, ce qu'on appelle dans Exode le livre de l'Alliance se complète sur ces paroles ici. Le livre de l'Alliance débute avec les 10 commandements, suivi des ordonnances, toutes les prescriptions, les consignes pour savoir comment habiter dans la terre promise où il les conduit. Et il se termine avec les belles promesses où Dieu s'engage lui-même à aider son peuple à prendre en possession ce pays. Et il leur donne, mais en plus, il va s'assurer qu'ils puissent en prendre possession, qu'ils puissent en hériter. Et on voit 3 promesses ici. Premièrement, il va envoyer un ange devant eux, comme on l'a chanté tantôt. Tantôt dans le chant « Jour de joie, jour de victoire », Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Avec lui, on peut accomplir des exploits par la main de Dieu. Donc, il envoie son ange. Ensuite, la deuxième promesse, c'est qu'il va lui-même se charger du combat contre les ennemis. Tous ceux qui vont oser s'attaquer à son peuple vont subir les foudres de Dieu qui va contre-attaquer. Pour protéger, mais en plus pour attaquer, pour donner tout le pays, tout le territoire qu'il leur a promis, en fixant comme une barrière spirituelle infranchissable. Et il promet en plus qu'il va les bénir, des bénédictions temporelles, mais pour leur rendre non seulement un beau pays, leur donner un beau pays, mais en plus les rendre heureux dans ce pays-là. Il veut qu'ils soient heureux, confortables dans le pays qu'il leur donne. Donc, premièrement, il envoie un ange devant eux. Il ne les laisse pas à eux-mêmes, après leur avoir donné toute sa loi. Il ne dit pas maintenant « débrouillez-vous ». Vraiment, il veut être avec eux à chaque pas qu'ils font dans leur marche vers le pays qu'il leur a promis. Et son ange, en réalité, c'est comme si lui-même était présent parmi eux. Il dit « je vais mettre mon nom en lui ». Ça fait penser au passage de Philippiens que Pasteur Ronald nous lisait tantôt, où Dieu, le Père, a donné son nom à son Fils. Lorsque nous adorons le Fils, nous adorons Dieu. Ici, il met son nom sur son ange qu'il envoie devant son peuple, et c'est comme si lui-même était présent. Au point même où l'ange va assurer leur succès dans le voyage. Il va prendre les devants devant l'armée, devant le peuple, et c'est sûr qu'ils vont réussir. Il sera même à leur tête dans les combats. Il ne va pas seulement les appuyer, il ne va pas seulement être derrière pour les motiver, il va lui-même être devant, au front. Mais puisque cet ange-là représente Dieu, présent parmi eux, il y a une implication directe. C'est qu'ils doivent lui obéir. Ils doivent se soumettre à cet ange-là. Donc, on se rend compte que cet ange est revêtu de l'autorité de Dieu. Même certains ont dit, c'est comme l'une des premières manifestations de Christ sur la terre. Le texte ne dit pas ça. Mais en tout cas, c'est un ange qui représente vraiment Dieu dans ce qu'il dit même, tout ce qu'il va donner comme instruction au peuple, le peuple va devoir lui obéir. Et même puisque l'ange est là, ils vont devoir être très soucieux d'obéir à tous les commandements, toutes les prescriptions que Dieu vient de leur donner. Le livre de l'Alliance, en fait. L'ange qui est là, puisqu'il représente Dieu, ne pourra pas supporter de voir le peuple désobéir à son maître. Ça vient donner une raison supplémentaire pour que le peuple obéisse à tout instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Dieu, puisque l'ange est parmi eux. C'est comme une manifestation tangible pour eux, du Dieu qu'on ne peut pas voir, pour qu'ils sachent que Dieu est présent et qu'ils lui doivent obéissance. Et c'est même indiqué qu'ils ne doivent pas lui être rebelles, ou dans la traduction de la colombe, ils ne doivent pas lui causer d'amertume. C'est le même mot, c'est le mot qui provient de la racine amère, un goût amer. Que l'ange ne soit pas déçu ou indigné en vous voyant, voire triste même en vous voyant. Ne l'attristez pas, c'est mon ange qui est là devant vous. Ne lui causez pas d'amertume en étant rebelle. On lit dans Psaume 78 que malheureusement, le peuple, pas dans les premiers temps, mais ça n'a pas été long, qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu sait le sentiment qu'il a éprouvé. Une amertume, une tristesse. Psaume 78, 40, il dit, « Combien de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert? Combien de fois ils l'attristèrent par leur rébellion? » Puis si vous connaissez le Nouveau Testament, vous avez peut-être fait le lien que Dieu nous commande de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Et Pasteur Ronald nous l'a rappelé tantôt. Nous sommes la maison de Dieu parce que nous formons le corps de Christ et le Saint-Esprit est en nous. Même il n'est pas divisé une partie dans l'un, une partie dans l'autre. Tout le Saint-Esprit est dans chacun de nous, chacun de ceux qui ont cru. Je suis la maison du Saint-Esprit. Vous êtes, chacun de vous, qui avez cru en Jésus, qui avez reçu l'Esprit, la maison du Saint-Esprit, et Dieu est présent en vous. C'est un rappel, une raison supplémentaire pour être obéissant envers Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On lit dans Éphésiens 4. Mais notre situation en tant qu'Église de Jésus, en tant que peuple de Dieu, est semblable justement aux Israélites à l'époque, alors qu'ils étaient en marche vers la terre promise. Dieu nous conduit vers le royaume des cieux qu'il nous a promis. Nous sommes en marche. Et il y a une foule de passages qui nous indiquent que nous sommes en marche. Nous ne sommes pas assis, nous ne sommes pas en train de dormir, nous ne sommes pas censés en tout cas. Nous devons veiller et continuer à marcher. Il nous conduit vers le royaume des cieux qu'il nous a promis. Et puisqu'il est avec nous, il faut obéir. On n'a pas le choix, là. Ça veut dire qu'il ne pourra pas, l'Esprit qui est en nous, ne peut pas supporter que nous désobéissions à Dieu le Père, au commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus a dit justement avant de retourner au ciel qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qu'il dit au début de ce verset? C'est que nous devons enseigner aux disciples à garder tout ce qu'il nous a prescrit. Le fait qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde nous assure qu'il va nous guider, qu'il nous conduit, il nous assure de sa présence. Mais il y a un lien direct qui est fait aussi avec l'obéissance. Puisqu'il est avec nous en esprit, il faut absolument respecter, obéir à tout ce qu'il nous a prescrit, toute la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus, après nous avoir laissé son contrat d'alliance, son livre d'alliance avec nous, ce qu'il s'attend de nous, il est parti au ciel, mais il ne nous laisse pas seuls nous débrouiller. Dans le fond, il nous a envoyé celui qui nous avait promis, son Saint-Esprit, avec nous. Et c'est Jésus, dans le fond, qui est lui-même avec nous, dans son esprit. Et dans ce même passage, dans Jean 14, il dit, « Si donc vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » À cause de la présence de Jésus parmi nous, en nous, si Jésus est venu dans votre cœur, le lien direct, c'est que maintenant, vous allez obéir à ses commandements. Ça va de soi. Dans Éphésiens 1, nous lisons, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru en Jésus. Et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage. » Le fait que le Saint-Esprit est avec nous, ça nous garantit le succès de cette marche. C'est sûr qu'on va hériter. En vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais, toujours dans Éphésiens, ce qui va de soi, c'est que ce Saint-Esprit-là, avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, nous ne devons pas l'attrister, le rendre amer par notre rébellion. Attrister l'Esprit qui est en nous, c'est attrister Dieu. C'est sûr qu'il y a des conséquences. On doit voir le Saint-Esprit en nous comme celui qu'il est, le Dieu trois fois saint. Le Dieu 3x5 qui n'est pas derrière un voile inaccessible. Maintenant, nous pouvons nous rendre auprès de Dieu, même plus que cela, il habite en nous. Nous devons d'autant plus avoir un comportement sain. Qu'est-ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit? Et dans Éphésiens, Paul donne plusieurs exemples. Premièrement, le mensonge, se comporter d'une manière malhonnête, hypocrite, ne pas être sincère. Non seulement dans notre adoration à Dieu, manquer de sincérité, mais même envers tous les hommes. Tout ce qui est faux déplaît au Saint-Esprit qui est en nous et l'attriste. Toute parole aussi qui est mauvaise envers des frères, la calomnie, le mépris, le jugement, la condamnation. Ou aussi avoir une attitude qui va à l'opposé de l'amour, donc maintenir une rancune envers quelqu'un qui nous a blessés, refuser de pardonner à quelqu'un. Lorsqu'on veut garder une rancune dans notre cœur, une dette, hein, qu'on pense que quelqu'un nous doit parce qu'il nous a blessés, puis on veut le conserver, comme par justice ou par désir de justice, et on refuse de pardonner, le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, ça lui déplaît, il a ça en horreur. Ou tout acte de méchanceté, c'est-à-dire de vouloir faire du mal à son frère, intentionnellement, ou même par négligence. Que ça ne nous dérange pas que nos actions fassent du mal aux autres autour de nous, voire même l'égoïsme. Le Saint-Esprit a cela en horreur. Ou de prendre les choses qui appartiennent à nos frères, le vol. Ou le manque de discipline qui nous fait tomber dans la paresse, où on devient dépendant des soins de nos frères. C'est une forme de vol aussi, cela. Mais tout cela doit être remplacé par, on sait, le contraire, c'est-à-dire la vérité, l'honnêteté dans notre comportement, dans toutes nos paroles, des bonnes paroles qui servent à édifier nos frères. Parfois, qui peuvent soulever des éléments négatifs, mais pour corriger, pour faire du bien. Le pardon, se faire grâce les uns les autres. La bonté, l'entraide, la discipline, le travail, être vaillant, non seulement pour ne pas profiter de la bonté des autres, mais en plus pour être capable d'aider les autres. Toutes des choses qui plaisent au Saint-Esprit et qui vont l'honorer. Et comme l'ange de Dieu ne pouvait pas supporter que les Israélites pêchent contre Dieu, mais le Saint-Esprit en nous ne peut pas supporter non plus. Et il y a des conséquences à lui déplaire. C'est pas seulement qu'il va être triste et il va pleurer dans son coin. C'est dangereux d'attrister le Saint-Esprit. Mais comme on l'a mentionné, quelques frères l'ont mentionné, le pardon de Dieu est toujours accessible, est toujours là. Il ne va jamais nous bannir. Il ne va jamais nous laisser pour dire, « Bon, là, c'est assez, là. Je m'en vais habiter ailleurs. » La demeure qu'il a établie dans nos cœurs est permanente. Et il nous garde. Il va nous ramener à lui. Mais il y a quand même des conséquences. Et on peut s'attirer des souffrances dans la vie en déplaisant au Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens, même les péchés qui ne sont pas envers les autres, mais qui sont même d'ordre privé, qui semblent être inoffensifs, même les péchés d'ordre sexuel sont tout aussi graves. Et même en un sens, ils sont pires. 1 Corinthiens 6 dit « Fuyez l'inconduite ». C'est sous-entendu l'inconduite sexuelle. Parce que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pèche contre son propre corps. Et ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est fort. Mais eux, ils n'avaient pas encore cette compréhension-là. Ce n'était pas dans le domaine spirituel comme nous, mais l'image était là à l'époque, avec l'Israélite. L'ange était présent avec eux, il les dirigeait. Ils ne devaient pas pécher contre lui ou lui déplaire. Et le premier défi qui les attendait, c'était de pouvoir se rendre jusqu'à Canaan, dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas, avec tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Mais l'ange, en fait, ne les délaisserait pas. Et il allait les conduire à destination. La promesse, dans le fond, de la présence de Dieu, elle est absolue. Et c'est une pure grâce. C'est même immérité. Mais le deuxième défi qui les attendait, c'est qu'en cours de route ou même arrivés à destination pour prendre possession de l'héritage, ils allaient rencontrer de nombreux ennemis. Et là, ça nous amène à la deuxième promesse de Dieu, c'est que Dieu va combattre ces ennemis-là. tous ceux qui vont oser être ennemis d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas obligés, ils pouvaient les laisser entrer ou passer, ou s'établir, mais tous ceux qui allaient oser être ennemis d'Israël, en fait, ils allaient se faire ennemis de Dieu. Et avoir Dieu comme ennemi, comme adversaire, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne chose. Ce Dieu-là contrôle la nature même. Il dit qu'il, comme un exemple, il va envoyer des frelons. On suppose que c'est des grosses guêpes, mais des gros essaims de frelons qui ravagent des armées ennemies, c'est sûr que ça fait fuir. Mais tout ça pour dire que Dieu contrôle la nature, même les éléments vont aller contre les ennemis de Dieu. Sa terreur va se répandre devant les Israélites. Leurs ennemis, après les avoir affrontés, ils vont fuir devant eux. Même certains vont fuir, même avant de les rencontrer, simplement par la terreur qu'elle va provoquer, la pensée que Dieu arrive et qu'il est présent, que l'Éternel est présent en Israël. Et Dieu va faire deux choses. Il va défendre les Israélites, les protéger, mais en plus, il va attaquer. Comme nous l'avons chanté, il fait des exploits et c'est lui qui écrase l'ennemi. Mais Dieu les avertit à l'avance. Les ennemis ne vont pas être chassés en un clin d'œil, en un instant, même pas en une année. Dieu va y aller de manière graduelle, peu à peu, ennemi par ennemi. La raison qu'il leur donne, même, il leur fait grâce de leur donner la raison, c'est que s'ils vident le pays, les bêtes sauvages vont venir, vont se multiplier et vont devenir un danger pour eux. Donc, c'est même pour les protéger, en fait, que Dieu dit, « Je vais les chasser progressivement, peu à peu. » Et même si ça prend du temps, ils ne devront pas baisser les bras. Ils ne sont pas autorisés non plus à faire alliance avec les peuples qui sont encore là, faire comme un traité de paix, puis dire, « On va vivre ensemble. » Parce que Dieu connaît aussi l'inévitable, et c'est encore pour les protéger, c'est qu'ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Parce que les rites spirituels, les rites religieux des autres peuples peuvent être très attirants. Surtout que c'est inévitable qu'ils vont... Les rites religieux comportent certains péchés qui viennent assouvir des désirs. C'est attirant, cela. Et Dieu dit, non, vous ne ferez pas de pacte avec eux. Vous allez détruire même leurs autels, tout ce qui concerne l'adoration aux autres dieux, vous allez détruire cela complètement. Il n'en reste pas de traces. Comme on lisait même dans le passage précédent, vous ne mentionnerez même pas le nom des autres dieux parmi vous. Vous devez fuir toute tentation d'adorer des idoles ou des faux dieux. Nous aussi, Dieu nous a promis qu'il va combattre pour nous. On n'a donc à craindre aucun ennemi. Il y a peut-être des ennemis qui vous viennent en tête, qui ont différentes formes. Mais Dieu nous dit qu'on n'a pas à craindre personne. Romains 8, 31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Bon, il y en a qui osent être contre nous, mais en fait, ils se retrouvent contre Dieu. Et il nous protège, même il contre-attaque, il nous donne la victoire, il nous fait justice. Et nos ennemis ont plusieurs formes. Il y a, entre autres, le monde et tout ce qu'il a à nous offrir. Il y a Satan, son armée de démons, mais il y a aussi nos propres cœurs. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces ennemis? C'est qu'ils souhaitent nous faire tomber. Ce sont des sources de tentation pour que nous tombions dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, que nous attristions le Saint-Esprit qui est en nous. Et si même nous ne sommes pas encore sauvés, si le Saint-Esprit n'est pas encore venu en nous, mais Satan, par ses attaques, par le monde, en fait, va tout faire pour que la semence de la bonne nouvelle qui a été mise en nous soit enlevée, pour être sûr qu'on ne soit pas sauvé. Mais c'est une attaque qui est très féroce. Mais tout tourne autour du point crucial de est-ce que nous allons pécher ou non. C'est là le combat. Allons-nous être obéissants à notre Seigneur ou nous allons tomber dans le péché? Et ce ne sont pas les différentes ressources qu'on a à notre disposition qui peuvent nous secourir. Par exemple, certains pourraient compter sur l'argent. Je pourrais me payer des bonnes choses qui vont m'empêcher de tomber. Ou les connaissances qu'on peut acquérir. Ou des amis influents. Ou tous les plaisirs. Tout ce que le monde a à nous offrir. Mais en réalité, toutes ces choses-là ne peuvent pas nous aider à ne pas tomber. Parce qu'elles appartiennent au monde. Et sont au contraire même des pièges si nous nous confions dans ces choses-là. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises en soi. Mais si nous mettons notre confiance dans l'argent... ou dans les amitiés, voire même dans une institution d'Église. Si on pense, « Ah, parce que j'assiste au culte le dimanche matin, je serai protégé. » Non, peu importe la chose dans laquelle nous mettons notre confiance, autre que Dieu, est un danger de nous faire tomber un piège. Certains vont se tourner vers des choses du domaine spirituel, la superstition, tout ce qui concerne le monde occulte, pour se protéger, pour se garder, des talismans, des porte-bonheur, des rites religieux quelconques. Mais toutes ces choses-là, en réalité, même si on n'en est pas nécessairement conscient, appartiennent au monde de Satan. Satan est là dans le monde spirituel. Il y a un combat féroce qui se trame. Et toute chose dans laquelle on pourrait se confier, qui est d'ordre spirituel, qui n'est pas Dieu, appartient au monde de Satan. Il va l'utiliser, en fait, pour nous faire tomber. Et si on dit, OK, je vais m'isoler, je vais compter sur mes propres forces, sur ma force de caractère, ma persévérance, les bonnes œuvres que je fais, ma volonté, mais on va tomber aussi. Parce que notre cœur, à la base, est de nature pécheresse et mauvais. Si on se fie sur nos propres forces, nous allons tomber. Nous sommes tellement impuissants, même face aux ennemis, que Dieu déclare qu'aucun de nous ne peut parvenir au royaume des cieux par tous les moyens qu'il pourrait imaginer. C'est même impossible à l'homme. Peu importe la façon imaginative qu'il pourrait concevoir pour se protéger, pour aller sur le droit chemin, pour parvenir au royaume des cieux, c'est impossible. Sans l'intervention de Dieu, ce qui attend tout homme, c'est d'être perdu à cause de ses péchés. C'est l'enfer pour l'éternité. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. C'est lui que nous chantons, que nous adorons. Son envoyé parmi nous pour marcher devant nous. Il l'a envoyé même bien avant que ce soit pour nous donner son enseignement ou pour être un exemple à suivre. C'était pour venir mourir pour nous, payer le prix de nos péchés. Et si vous croyez que Jésus est mort pour vous, si vous vous confiez dans le sacrifice de Jésus et pas dans d'autres choses, que ce soit matériel, spirituel ou personnel, si vous vous confiez seulement dans le sacrifice de Jésus pour être sauvé, pour pouvoir hériter du royaume qu'il nous a promis, bien, vous aurez la vie éternelle. Vous avez même la vie éternelle. Vous êtes déjà des citoyens du royaume des cieux. Vous avez simplement à le déclarer, à le confesser à Dieu. Et Dieu promet qu'il vous enverra son esprit qui va habiter en vous. Et par son esprit, par Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Donc, la victoire sur les sources de tentation, incluant même notre cœur mauvais. Dieu nous donne la victoire. Cette victoire-là, un peu à l'image de la victoire progressive de la conquête de Canaan, dans nos propres vies, elle est aussi progressive. Peu à peu, nous gagnons du terrain en terrain, de progrès en progrès. Et franchement, je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne pense pas qu'on peut savoir pourquoi Dieu a voulu que ça soit progressif. Pourquoi il ne nous rend pas parfaits du jour au lendemain, en un clin d'œil. Pourquoi il veut que le combat soit progressif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour notre bien et Dieu a de bonnes raisons. Et ça fait partie de son plan qui est merveilleux. Mais il va nous conduire dans ce combat de progrès en progrès vers la vie éternelle dans le royaume des cieux. Et nous allons le louer pour l'éternité pour sa grande sagesse, sa grande bonté. Dans 1 Corinthiens 15, nous lisons « Ô mort, où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Si vous êtes en train de suivre le Seigneur qui est devant vous, vous ne travaillez pas en vain. Progressez. Donc, nous savons que le Seigneur n'a pas complètement détruit tous les ennemis qui sont devant nous. Ils sont encore là. Mais nous savons pourquoi, du moins que ces ennemis-là, comme le monde, la méchanceté dans le monde, Satan, pourquoi ils ne sont pas encore détruits. C'est que Dieu attend. C'est un temps de patience. Il attend parce qu'il veut que tous se repentent, que tous soient sauvés. Ensuite, il reviendra juger. Et nous savons que Satan, les démons, tout le mal qu'il y a dans le monde, le péché même sera comme extirpé. Tout cela sera jeté en enfer pour l'éternité. Et le royaume des cieux sera complètement pur. Il n'y aura plus de source de tentation. Le combat sera terminé. Ce sera enfin un repos. On va pouvoir souffler un repos éternel. Notre paix sera totale, durable, à l'infini. Et il y a une troisième et dernière bénédiction qu'on peut voir dans ce passage. C'est qu'il va les bénir, justement. Donc, une troisième promesse, plutôt, qu'il va les bénir. Il va les combler de bénédictions. Il bénira votre pain et votre eau. Il va écarter la maladie. Il n'y aura pas de femme qui va faire de fausses couches, ni de femme stérile, dont tous les couples vont pouvoir avoir des enfants. Et même, il va accorder une longue vie à chacun. On pense à l'expression « rassasié de jour », heureux dans sa vieillesse. Donc, il va subvenir à leurs besoins physiques et il va s'assurer de leur bonheur dans ce pays qu'il leur donne. C'est sûr qu'il y a une condition à cela. Leur bonheur ultime qu'il leur promet dépend quand même de leur fidélité à Dieu, puisqu'il y a des conséquences. S'ils se rebellent à lui, ils auront des punitions, des corrections pour les ramener. Mais Dieu souhaite quand même leur bonheur. Même les corrections sera pour leur bien. Et ils vont devoir continuer à servir Dieu fidèlement et seulement lui. Et ils vont devoir se débarrasser de toutes les fausses divinités. De notre côté, nos bénédictions sont premièrement spirituelles. C'est sûr qu'on peut s'attendre, puisqu'on vit dans un monde physique, matériel, on peut s'attendre à ce que Dieu nous aide dans ce monde. Et il le fait. Il prend soin de nous. Et on a de multiples raisons de le louer pour sa fidélité. Le travail qu'il nous donne, la santé qu'on peut retrouver après la maladie, le souffle de vie simplement de pouvoir vivre, l'argent, les amitiés. Mais tout ce qu'il nous donne lorsque nous sommes chrétiens est davantage spirituel. Et il invite à tourner nos yeux vers le ciel, à comprendre tout ce qu'il nous a donné, le sujet de nos méditations. Plus qu'on apprend à connaître la richesse de ce qu'il nous a donné, plus on l'apprécie. Dans Éphésiens 1, 3, on lit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Notre trésor qui nous attend, notre richesse, tout ce qu'il nous a béni, c'est déjà acquis, c'est déjà fait, ça nous attend dans le royaume des cieux. C'est tellement sûr que même on est montré comme si il parle de nous comme si nous étions déjà assis là-bas. Nous sommes déjà des citoyens du royaume des cieux. Il nous donne un sens à la vie, une raison d'être, une espérance, un but à atteindre. Ça amène une paix, ça vient combler le vide que plusieurs ont. Une joie qui est surnaturelle. Une joie même à travers les épreuves, même à travers la douleur, même à travers la perte d'un être cher. Même dans la vieillesse, dans la maladie. Il nous donne aussi l'honneur. Il vient redonner une dignité humaine. Il nous donne l'honneur de faire partie de sa famille. Comme notre sœur le partageait dans sa prière, c'est un grand honneur qu'il a fait de nous, ses enfants. Nous pouvons dire que nous sommes les enfants du Dieu créateur, citoyens du royaume des cieux. Et il nous appelle à être saints. C'est toute une bénédiction, cela. Il ne va pas nous laisser dans le péché, nous enfoncer, comme le reste du monde qui est sous cette malédiction-là. Lui, il nous fait progresser dans le sens inverse. Il nous appelle à être saints. Il nous garantit même que nous le deviendrons. Tout l'amour qu'il nous donne aussi. Et même la capacité d'aimer, de pardonner. C'est une grande bénédiction. Et bien sûr, la vie éternelle auprès de Dieu. Celui qui est en Christ a la vie. Et la vie en abondance, qu'on lit dans Jean 10:10. Et ça dépasse même juste les choses qu'on pourrait désirer pour la vie de tous les jours. Si on comprend cela et qu'on aspire à cela, Dieu dit qu'il va nous les donner, mais en plus, il va nous donner ce qu'on a besoin pour la vie de tous les jours. On ne manquera de rien. La sagesse que Dieu nous donne est utile à tout, même à notre pèlerinage sur cette terre, à notre marche jusqu'à la fin. On lit dans 1 Timothée 4, « Exerce-toi la piété, donc de vivre en étant conscient que Dieu est là, de le servir. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Non seulement elle est utile pour nous sur cette terre, faire de bons choix, être heureux, pouvoir vivre et profiter de ce que Dieu nous donne, Mais en plus, elle a la promesse de la vie éternelle dans son royaume. Donc, est-ce que Dieu aime récompenser ses serviteurs? Je pense que oui. C'est pas qu'on peut se péter les bretelles puis dire « Ah, oh, je mérite les récompenses de Dieu. » Mais on peut quand même aspirer à lui être agréable. Et Dieu promet que tout ce que l'on fait, même dans le secret, alors que les autres ne le savent pas, Dieu le voit et il va nous remercier, il va nous récompenser pour cela. Des couronnes nous attendent au ciel pour cela. Il veut honorer ses enfants, qu'il l'honore. Il veut nous faire participer à sa gloire. Dans Matthieu 19, 29, Jésus promet « Quiconque aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, frères, sœurs, pères, mères, enfants, ou même une terre, une propriété, à cause de mon nom, il recevra beaucoup plus et il héritera de la vie éternelle. » Même la vie éternelle est montrée comme une récompense, la récompense ultime. Donc, ce qu'il nous a promis, c'est un héritage céleste. Pour ça, il a envoyé Jésus. Ne l'oublions pas, Jésus est là, il est présent, il marche devant nous en son esprit pour nous guider vers le royaume des cieux. Puisqu'il est présent avec nous, il nous protège, il nous garde. Nous n'avons pas à craindre les forces du mal, nous n'avons pas à craindre les hommes, nous n'avons même pas à craindre les mauvais esprits. Nous n'avons même pas à craindre que par notre cœur méchant, nous puissions un jour nous en aller et nous perdre. Il est là pour nous garder, comme un berger qui garde ses moutons et il va nous ramener. Mais puisqu'il est là pour nous guider, nous devons lui obéir. Il nous bénit, il nous rend heureux sur cette terre, mais nous devons lui obéir, puisqu'il y a quand même des conséquences à lui déplaire. Donc, grandissons toujours dans cette compréhension de la volonté de Dieu pour lui être agréable. Marchons de progrès en progrès vers le lieu où la bénédiction sera à son comble dans le royaume des cieux. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous lisons « N'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Et un dernier passage en conclusion dans Hébreux 6. Et je vous invite à tourner pour le lire avec moi. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, c'est presque à la fin de la Bible, avant Apocalypse, avant Jean, Pierre, Jacques. Donc, Hébreux, chapitre 6, verset 10. « Dieu n'est pas injuste. » En fait, à nos yeux, on pourrait considérer qu'il est injuste, mais il ne l'est même pas. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Amen.